Le 16-19 avec Sana sur News FM.
Eh oui, comme prévu, de retour sur les ondes, les amis. En tout cas, installez-vous confortablement, c'est parti pour cette interview exceptionnelle. Il s'agit de témoignages hein, des enfants transplantés de La Réunion avec la Fédération des enfants déracinés de Drôme, qu'on appelle les enfants de la Creuse, hein, accompagnés par Alter Ego. Donc, ils ont décidé de nous faire plaisir de venir témoigner parce que témoigner, c'est pas quelque chose de facile. Donc, en face de moi, d'abord, j'ai Daisy Jamin. Bonjour, bienvenue sur News FM.
Bonjour monsieur.
Vous allez bien?
Je vais très bien, et vous-même?
Oui, ça va super. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Je vous en prie.
Et nous avons également Nelly Boyer. Comment allez-vous?
Eh bien, je vais très bien aussi, merci. Et merci de nous accueillir pour recueillir notre témoignage.
C'est quelque chose de très, très important pour nous. Et en plus, vous n'êtes pas seul, vous êtes venu en compagnie, je l'ai dit tout de suite, l'association Alter Ego avec Ali. Comment tu vas, Ali?
Très bien, toujours heureux de revenir ici et puis de voir que vous vous intéressez à ce qu'on fait aussi.
C'est un plaisir parce qu'on mène le même combat.
Toujours.
Donc, celui de la paix et de la liberté pour tout le monde. Donc, du coup, d'abord, avant qu'on rentre dans le vif de cette interview, Daisy, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, bien sûr.
S'il vous plaît.
Je m'appelle Daisy Jamin, j'ai 69 ans. Je suis née à Saint-Léu-de-la-Réunion et j'ai été transportée en France sous la pulsion de Michel Debré à l'âge de 13 ans en Loire-Atlantique parce que la Creuse, c'était plein, il y avait eu leur quota. Donc, on était dispatchés dans 84 départements et moi, je suis arrivée en Loire-Atlantique.
D'accord, Loire-Atlantique.
Oui, à Nantes.
À Nantes.
Enfin, la banlieue nantaise, mais on dit Nantes parce que les gens ne comprendraient pas.
C'est vrai.
À Saint-Étienne de Montluc, plus exactement.
D'accord.
Chez les sœurs.
D'accord. En tout cas, merci. Nelly.
Alors, moi, je suis Nelly et je suis née à La Réunion, un petit village qui s'appelle Grand Bassin. Et je suis arrivée, j'étais en structure chez les religieuses pendant 3 ans. Mmh. Et je suis arrivée en métropole, exilée en métropole, en octobre 67, dans un petit village du Gers qui s'appelle Saint-Clar.
D'accord. Ali, nous on se connaît, mais quand même, je vais vous demander de te présenter.
Oui.
Et ça peut qu'il y a quelqu'un à l'antenne qui ne sait pas.
Ouais.
C'est qui Alter Ego? Bon, Alter Ego, tout le monde connaît. Ali.
Voilà, en fait, moi je suis Ali Djilali. Je suis militant à l'association Alter Ego Isère, qui maintenant est devenue association départementale Alter Ego Isère. On milite sur les questions de la diversité culturelle et surtout, on est une association de lutte contre les discriminations. Et tout ce qui concerne la discrimination dans tous les sens, que ce soit handicap, on a fait beaucoup de choses sur les femmes, les hommes, on a fait beaucoup de choses aussi sur les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mmh. En fait, tout ce qui concerne la sensibilisation à la question de l'altérité, à la question de l'autre, quoi. Ce qui est important pour nous, et aujourd'hui, ce qui est important pour nous ici, on les a déjà fait venir auparavant, les enfants déracinés. Moi, j'ai découvert cette histoire abominable il y a que quelques années que je connais cette histoire-là. Et donc, il était important de faire découvrir un pan de l'histoire pour comprendre pourquoi ils sont ici et comment ça se fait qu'on a pu faire une chose aussi horrible que ça, de déraciner, prendre des enfants, les éloigner de leur famille en leur faisant espérer une autre vie et un retour probable dans leur pays. Et donc, aussi, c'est extrêmement important parce que ça a impacté leur vie, ça impacte aussi nous, notre regard, parce qu'on regarde La Réunion, c'est les vacances, c'est
le soleil,
le soleil. Mais derrière tout ça, il y a aussi ce qu'a pu faire la France, ce qu'a fait la France de 62, je crois, à 84, déraciner ces gens. Donc il était important que nous, notre association, elle puisse participer à ça. Et donc on est très heureux chaque fois de les accueillir ici. Ça fait au moins 3 fois qu'on fait les rencontres. Donc demain, ils vont aller dans les lycées. Et il va y avoir vendredi aussi, on va être à Voiron pour une séance tout public à la MJC de Voiron.
À la MJC de Voiron. Voilà. En tout cas, on connaît très bien la MJC de Voiron. Hein, si jamais vous êtes connecté sur les ondes de News FM, on vous passe un gros, gros bonjour. Et surtout, merci beaucoup pour tout ce que vous faites à Ali, hein, avec votre association Alter Ego, quand même, qui est là, qui essaye de mettre les choses à leur place et de les mettre aussi en lumière. C'est très, très important pour la nouvelle génération et même pour l'ancienne génération. Voilà, qui ont encore ces blessures-là, en fait. Parce que c'est des blessures, pour moi, déraciner une personne, c'est comme lui enlever son âme, en quelque sorte. Voilà, Daisy, oui. Et toi et vous et Nelly. Donc, voilà, des fois, j'ai dit toi, hein, parce qu'ici, à News FM, on a l'habitude de tutoyer.
Bien au contraire, c'est autorisé.
Donc, du coup.
Il n'y aura pas la barrière.
Merci beaucoup, c'est vrai, il n'y a aucune barrière. Daisy, mais aujourd'hui, comment vous vivez cela, en fait? Cette histoire qui colle sur votre peau, si je peux le dire comme
bien
ça, parce
sûr,
que ça
jusqu'à
date
jusqu'à ma mort.
Jusqu'à ma mort.
Oui. Et en fait, je me pose la question, le pourquoi des choses. Pourquoi on nous a fait ça? Dans quel but on nous a fait ça? On est des êtres humains, pas des robots.
Non.
On a été enfants déjà. Malheureux, parce que moi, personnellement, j'ai perdu mes parents qui ont été assassinés. Hein, et moi, tout ce que je voulais, c'était un peu d'affection, d'amour, de la part des adultes, parce qu'on était des enfants.
Tout à fait.
Et les enfants, ça subit. Et malheureusement, déjà, à La Réunion, ça n'a pas été terrible parce qu'on a vécu des punitions graves par rapport aux petites bêtises qu'on faisait. Mmh. Une fois, j'étais en train de jouer dans la cour de récré au foyer. En fait, on appelle foyer, c'est plus un orphelinat que foyer. Mmh. Voyez. Et j'étais chez des sœurs. On n'était pas très bien traitées. Ce serait long à dire tous les maltraitances qu'on a vécues. Mais Monsieur Debré, Michel Debré était venu. Mmh. J'étais en train de jouer à la marelle. Je sautais comme toutes les petites filles en général.
Tout à fait.
Il m'a serré la main en me disant « Bonjour mademoiselle, je suis Michel Debré. » Il était accompagné par d'autres élus, par d'autres personnalités. Moi, je ne savais pas, j'étais qu'une petite fille. Je ne savais pas qui était Michel Debré. Mmh. Je me pose la question plus tard, je saurai très, très tard dans la vie qui était vraiment et quel était son rôle à Michel Debré. Et sa pulsion qu'il a eue de nous déporter, j'appelle ça déporter, en France, en nous promettant une belle vie, un beau voyage, une belle vie. Mais enfin, c'était un aller sans retour. Et on a subi encore et encore et encore des maltraitances, de plus en plus, du racisme, des viols. Tabassé, je dis bien tabassé, enfermé. Voilà. Et c'était la vie qu'on nous avait promis, ça? Non. C'était pas ça du tout. Moi, on me disait, va en France, on va t'honorer. Va en France, on marche sur l'or. C'était de l'ordure, pas de l'or.
Tout à fait.
Et ça, je ne pardonnerai pas à l'État français de nous avoir fait martyriser. Jamais je ne donnerai le pardon. Parce que c'était beaucoup pour un enfant de subir tout ça.
Tout à fait.
Un enfant ne doit pas subir des maltraitances de la part des adultes. Parce qu'après, ça peut tomber dans la délinquance, tomber dans la drogue ou n'importe. Heureusement pour moi, c'est la danse qui m'a sauvée. Et l'amour de ceux qui m'ont tendu la main. Et l'amour d'un bon mari que j'ai maintenant. Et l'amour de mes enfants et mes petits-enfants. Mais l'État.
Excuse-moi, tu avais quel âge quand tu es venu en France ?
Quand j'ai pris le Boeing 707, j'avais 13 ans. Et j'ai vu Michel Debré juste avant. Bonjour mademoiselle, je suis Michel Debré. Qu'avait-il derrière la tête, monsieur? Il savait ce qu'il faisait.
Ils avaient l'intention de faire quoi, en fait?
En fait, c'était... Au départ, c'était pour... Parce qu'il y avait une démographie importante, trop importante à La Réunion. Beaucoup d'enfants... Parfois déçus de parents malheureux, alcooliques, sans travail, beaucoup de choses très importantes qui faisaient souffrir des parents, qui avaient des enfants qu'ils ne pouvaient pas forcément nourrir correctement. Et c'était dans le but d'emmener des enfants en France pour une belle vie, qu'ils aient un beau métier, qu'ils soient bien. Et comme il y avait une démographie très importante à La Réunion, et en même temps, dans la Creuse, le département de la Creuse, il y avait des enfants, des jeunes, hein, qui partaient en Hexagone parce que ils n'avaient pas de travail. La Creuse se dépeuplait. Donc il fallait combler cette Creuse. Donc Michel Debré a eu la bonne idée, avec Jacques Tarbes, qui était directeur de la DAS à l'époque, hein, l'ASE, on peut dire, d'emmener les enfants, de repeupler la Creuse et leur donner une belle vie. Mais malheureusement, beaucoup, beaucoup d'enfants ont souffert. Certains sont sortis heureux parce qu'ils ont eu une belle adoption, mais ça n'a pas été le cas de tous, monsieur. On était très maltraités. Et ça, je ne pardonnerai pas à l'État.
C'est difficile. Nelly.
Oui.
Et vous, comment vous vivez ça après tant d'années?
Alors, contrairement à toutes les émotions par lesquelles je suis passée, c'est-à-dire la trahison, l'abandon, une perte de confiance dans l'adulte par rapport à tous ces mensonges, parce que d'un côté mon père c'était un être humble. Quand je dis humble, il n'y a rien de péjoratif. Il ne savait ni lire ni écrire, et il était veuf. Il était veuf avec ses deux jeunes enfants, et en fait d'un côté on lui disait verbalement que votre fille va partir en France, elle aura un bel avenir, elle, c'est une élève brillante à La Réunion, elle aura un avenir tout tracé. Et d'un autre côté, vous reverrez votre fille à toutes les vacances, tous les ans votre fille reviendra vous voir. Et d'un autre côté, on faisait signer à ce pauvre homme un acte d'abandon qu'il ne comprenait pas. Il signait ce qu'il pensait avoir entendu d'une croix. Et en grandissant, j'ai haï cet homme qui était mon père. Parce que je ne savais pas, parce que moi, dans ma tête, il m'avait abandonné chez les religieuses la première fois et qui m'avait laissé aux mains de la DAS. Et donc, c'est après, en devenant maman, en vieillissant, j'ai compris mon histoire, et j'ai pu voir dans mon dossier de l'État, en fait, mon acte d'abandon signé, enfin, d'une croix par mon père. Et c'est là que j'ai compris toute l'hypocrisie, tous les mensonges. Moi, la colère, elle est venue après, pas au début. Ma colère était dirigée vers cet homme qui était mon père et que j'ai haï parce que je croyais qu'il m'avait abandonné. Et maintenant, j'ai honte d'avoir eu cette colère envers mon père parce que je ne le savais pas.
Oui, parce que tu étais enfant aussi.
J'étais enfant, donc... je ne le savais pas. Mais moi, dans ma tête, comme j'avais 11 ans, ce que je comprenais, c'est qu'il m'avait abandonné. Et je ne pardonnerai ça. Là, la colère est là, alors que je n'avais jamais ressenti cette colère avant. Oui, l'abandon était très fort, très présent en moi, mais pas la colère. Et la colère, elle est venue...
après.
Pas depuis très longtemps. Et c'est ça, il faut que je travaille sur cette colère pour qu'elle ne m'envahisse pas et qu'elle ne pourrisse pas ma vie.
Et cette colère, est-ce que ça a été une prise de conscience?
Oui.
C'était ça?
C'est cette prise de conscience en voyant l'acte d'abandon dans mon dossier au Conseil général de La Réunion que j'ai pris conscience, et que j'ai su aussi, je savais que mon père ne savait ni lire ni écrire, qu'on a dit que votre fille reviendra tous les ans aux vacances, vous reverrez votre fille tous les ans. Et d'un côté, on lui faisait signer contre l'inverse de ce qu'on lui disait verbalement. Et ce pauvre homme signait quelque chose qu'il croyait avoir entendu. C'est insupportable de le découvrir en tant qu'adulte. Et cette honte que moi j'ai comme fille, étant fille de cet homme, de l'avoir haï, de l'avoir... complètement rangé de ma vie, sorti de ma vie, et maintenant je m'en veux terriblement. Même je sais que je suis pas vraiment responsable de cette colère, de cette honte de cet homme, mais j'ai honte de le ressentir.
Tout à fait, moi je comprends parfaitement. En tout cas, au fur et à mesure, le temps passe, les années passent et les vraies histoires font en fait viennent à la surface en fait. Donc à travers ces témoignages, moi ça me fait penser parce que moi j'aimais beaucoup lire avant. Je lisais un auteur africain qui s'appelle Ferdinand Oyono. Il a sorti un livre, Le Vieux Nègre et la Médaille. Donc dans ce livre, il racontait pendant la guerre, hein, la France, ils sont venus. Ensuite, lui, il avait deux enfants, deux garçons. Il lui a dit, bon, on va prendre tes enfants, ils vont aller se battre pour nous, vous aurez tout le meilleur du monde en fait. Donc ces enfants, finalement, ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais fait le retour en fait.
Voilà.
Donc quand ils sont retournés, on lui a fait récompense de quoi ? Une médaille. Vous voyez ? Donc voilà, en tout cas, Ali, je reviens vers toi,
oui.
Alter Ego. Ça, c'est des luttes que vous menez depuis très très longtemps.
Depuis toujours, en fait, depuis la création de l'association, pour nous, ce que racontent nos camarades là, c'est extrêmement important parce que ça témoigne. Daisy a dit un mot très juste, le racisme qu'ils ont subi. Et encore, il y a eu des conditions, il y a des gens qui mangeaient carrément, il y en a eu des témoignages où des gens mangeaient carrément avec les chiens,
oui.
Mangeaient à la gamelle, ils dormaient pas normalement dans une maison, ils étaient dans la paille, dans les granges et tout, entre les viols, les violences qu'il y a eu. Donc nous, c'est extrêmement important qu'on soit présent là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit par exemple Daisy qui est une métisse, une jolie métisse, et on imagine des choses sur ces gens. Et là, chez toi, on voit moins. On voit moins le côté réunionnais.
Si je peux me permettre, ouais. Bien sûr, je n'ai pas subi le racisme de plein fouet parce que je suis blanche, mais mon compagnon, le papa de ma fille, est noir, métisse réunionnais. Ouais. Et je peux vous dire que le racisme, par procuration,
oui.
Quand vous le vivez à côté de la personne, que vous le recevez en pleine figure, je peux vous garantir que c'est très douloureux. C'est comme si ça vous est adressé à vous. Quand vous essayez d'expliquer qu'on est de la Réunion, et voilà ce qu'on a comme réponse, que j'ai pu avoir comme réponse, mais tes ancêtres vont se retourner dans leur tombe de voir ça. Mais voir quoi, en fait? Et donc, c'est pas parce qu'on est blanc, que je suis blanche, que je n'ai pas subi le racisme.
À travers le
papa de ma fille. Mmh. Parce que, comment dirais-je, le racisme était comme inconnu pour moi à La Réunion. J'ai des copines de toutes les couleurs, hein, de l'arc-en-ciel, voilà.
La Réunion de toutes les races.
Voilà.
C'est ça. C'est ça que je trouvais intéressant pour nous, Alter Ego. Mmh. C'est aussi comme en Guadeloupe, les combats que nous menons aussi avec les Antillais ici en France, que ce soit avec toute l'Afrique, avec les Sénégalais, avec le Niger, il y a plein de choses comme ça il y a plein d'assos qui sont là pour montrer quelque chose d'autre de leur culture, montrer quelque chose d'autre de ces personnes qu'on dit différentes de nous, etc. Mais qu'en même temps, aussi, c'est un drame humain. Mm-hmm. Personne ne peut être insensible à leur témoignage. Dire comment on peut prendre un enfant à 12 ans en disant est-ce qu'ils auraient fait ça avec des Français ? Est-ce qu'ils auraient fait ça avec des enfants ? Mm-hmm. Des enfants d'ici, des enfants de la France, et ils les auraient transportés ailleurs. Ils auraient crié au scandale. Mm-hmm. Non, là, c'est un pays pauvre, ce sont des gens qui sont... des gens qui ont pas de parents, qui sont à la DAS, abandonnés. On dit, on va repeupler la France, on va le repeupler, et en même temps... Non, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille ? C'est d'une violence terrible, ça.
Excusez-moi. Et aussi, il n'y a pas que ça. Être déporté, c'est terrible, mais être séparé de ses parents, de sa famille. Moi, ma petite sœur, quand mes parents sont décédés, personne ne pouvait s'occuper de nous dans la famille, parce que les oncles et les tantes, ils avaient déjà leurs enfants, puis il y avait la pauvreté extrême. Et mes deux grands-pères qui me restaient, ils ne pouvaient pas nous prendre... nous élever, nous nourrir, nous héberger, parce que c'était des cases en paille. Hein? Eh bien, quelqu'un a appelé l'assistante sociale. Et là, c'est là que ça commence le drame. C'est que ma soeur aînée avait 13 ans, Suzanne, Anne-Marie avait 7 ans, moi j'avais 9 ans. Et ma petite soeur, la dernière née, n'a pas connu ses parents, parce qu'ils sont décédés avant. Elle avait 9 mois. Et elle a été, nous, on est parti au foyer des pupilles à Saint-Denis, et la petite à la pouponnière. Et j'ai toujours demandé à la DAS de me montrer ma petite sœur. Je voulais voir ma petite sœur. Jamais. jamais j'ai eu le droit de revoir ma petite sœur. Je l'ai retrouvée il y a 4 ans, à 56 ans. Jamais j'ai joué à la poupée avec ma petite sœur. Et je l'aurais rencontrée dans la rue, j'aurais dit bonjour madame. Ça, c'est grave. Le Covid aurait pu nous emporter une de nous quatre sans qu'on puisse être en contact. Pourquoi l'État nous a fait ça? Ça, c'est dur, monsieur. C'est très dur.
Alors aujourd'hui, la question que je me pose, moi aussi, c'est... Je sais qu'il y a des revendications de reconnaissance de l'État. Mmh. Il y a eu... les associations sont montées au créneau. Je crois qu'ils sont allés voir, ils sont allés voir les instances, les gouvernements français. Ils sont nés où, à ce niveau-là?
À ce niveau-là, ben justement, le 27 mars...
Mmh. 26
mars, pardon. Il va y avoir une proposition de loi par une députée de La Réunion, Madame Karine Lebon. Donc, il y a un groupe de réunionnais
qui va monter à l'Assemblée nationale.
Qui sera à l'Assemblée nationale pour justement soutenir cette députée pour enfin
obtenir
clôturer cette histoire qui ravive, parce qu'il y a des cicatrices. Mais les cicatrices ne sont jamais vraiment cicatrisées. Elles puent, elles coulent, elles purulent tous les jours, en fait, parce que ça ravive des souvenirs et encore et encore. Et ça, c'est insupportable. Nous vieillissons, nous avons des maladies plus ou moins graves les uns les autres, et nous avons besoin de passer... On avait une vie très dure d'adulte, très dure. Il a fallu tenir debout. Il a fallu déployer d'énergie pour tenir debout. Mmh. On a tenu debout. Et on voudrait avoir une retraite des années qui nous restent, qu'elle soit apaisée, qu'elle soit dans le meilleur des situations pour nous, qu'on n'ait plus à se préoccuper de... Voilà, qu'on nous ait reconnus, qu'il y ait des excuses. Moi, je demanderais individuellement, mais même collectif, ce serait déjà bien. Mais ce serait bien, enfin, de le faire, de nous reconnaître. Parce que, personnellement, moi, je trouve que de nous laisser, de nous ignorer à ce point, hein, quel que soit le ministre ou le président qui a été, voilà, je trouve qu'arriver à ce niveau d'années de combat... Ça ressemble à de la maltraitance, et je me sens maltraitée actuellement par de ne pas être entendue, de ne pas qu'il y ait aucune chose qui bouge réellement, qu'il n'y ait aucune volonté dans ce sens pour que ça s'arrête enfin pour nous. Voilà.
Que l'État reconnaisse ses torts surtout et s'excuse sincèrement.
C'est important, c'est important de s'excuser quand même. Parce
s'excuser.
Même si. Cette excuse, ça ne va pas résoudre, en fait.
Non.
Ça ne va rien remplacer du tout. C'est juste un mot, en fait.
Voilà.
Donc, voilà.
C'est un mot, mais c'est quand même une enfance volée.
Tout à fait. Ça ne changera pas beaucoup
de choses.
Tout à fait.
Et ça, il faut que l'État reconnaisse ses torts et s'excuse sincèrement. Sincèrement.
Et aujourd'hui, voilà. Vous êtes là, vous avez fondé des familles.
Oui.
Vous avez des enfants, des petits-enfants,
oui.
Peut-être des arrière-petits-enfants aussi. Comment, en fait... Comment vous faites avec eux? Est-ce que c'est quelque chose que vous les apprenez, vous les en parlez, ou c'est quelque chose, c'est dur à en parler avec eux pour ne pas les blesser aussi?
Alors, au départ, on nous a tellement menti qu'on l'a découvert tard, qu'on était des enfants déportés. On savait qu'on souffrait, mais ça faisait partie de notre vie, de souffrir. Et lorsqu'on a appris en tant qu'adulte, pour moi toujours... qu'on était des enfants déportés, car à cette époque-là, c'était à Paris qu'on demandait notre dossier, c'était pas à La Réunion. Et quand j'ai vu que sur le papier que j'étais vraiment déportée, ça fiche un coup au cœur. Mais nos enfants, monsieur, on n'en parlait pas. C'est pas par honte, il y a une petite partie d'honte pour ce qu'on a subi, hein, moi personnellement. Mais nos enfants, ils ont leur vie. Ils ont des difficultés à leur façon. Que ce soit à l'école, au sport ou autre, dans la vie, ils ont leurs difficultés. On n'allait pas en rajouter. Moi, personnellement, je ne voulais pas en rajouter. Mais les médias, par les médias qui en parlaient, par l'association de la FED qui en parlait, les radios, les télévisions, eh bien, ils apprenaient la vérité sur leurs parents. Et c'est dur pour eux. Ils ne le disent pas. Mais ils savent le montrer sans le vouloir, inconsciemment, ils montrent qui compatissent à notre douleur. Ils se montrent encore plus vigilants et plus gentils encore. Et ça, plus câlins encore. Et ça, c'est un cadeau des enfants, vous savez. On est soutenu. Moi aussi, je suis soutenue par un mari qui est hyper sympathique, très reconnaissant, très aidant. Mmh. Et ça aide à avancer dans la vie. Mais maintenant, c'est à l'État de s'excuser sincèrement pour nous, pour un grand apaisement.
Tout à fait.
Tout à fait. Pour qu'on soit soulagé.
Et toi, Nelly?
Alors, moi, par rapport à ma fille, ma petite fille, je me suis retrouvée rapidement très seule avec ma fille parce que son papa est décédé. Elle était très jeune, elle avait 3 ans et demi à peine. Et ma petite fille est une petite fille très curieuse, très voilà. Et elle est revenue un jour à l'école en disant maman, pourquoi j'ai pas de mamie? Elle est où ma mamie? Elle est où mon papi? Il est où mon papy? J'ai pas de tati. Et là, forcément, avec ces mots à elle, j'ai essayé de lui expliquer. Et au fil du temps, en grandissant, elle a pu, parce que je connaissais un petit peu ma maman, j'ai eu des souvenirs d'elle, de mon père aussi. Et donc j'ai pu lui dire certaines petites choses et j'ai eu la chance de pouvoir aller à la Réunion. Elle était relativement jeune, elle devait avoir 7-8 ans, donc elle a découvert l'endroit où je suis née. Je lui ai raconté des petites anecdotes, un chemin où j'avais le souvenir de tenir la main de ma mère qui sur ce petit chemin, et inconsciemment j'ai refait ce même chemin avec ma petite fille à la main. Et donc, les choses sont venues quand même facilement pour moi par rapport à ça. Donc, peut-être aussi merci à ma fille d'avoir été curieuse un petit peu. Pourquoi j'ai pas de papy? Moi, j'ai pas de mamie. Elle est où ta maman? Donc, ça a été. J'ai répondu à ces questions avec ces mots elle au départ. Et avec le temps, j'ai pu étoffer un peu plus les explications.
Et Daisy l'a dit tout à l'heure. En fait, l'histoire s'est sortie parce que les radios, les journaux en parlaient.
Oui.
Donc, et vous, c'est à quel moment, parce que témoigner de ces choses quand même, comme tu l'as dit, hein, tu l'as souligné, Désir, hein, c'est quelque chose, il y avait une part de honte quand même, parce que c'était difficile de témoigner de cela. Mais c'est à quel moment vous vous êtes dit, là, il faut que je sois devant de la scène pour dire la vérité de ce qui s'est passé?
Eh bien, moi, je ne suis pas... pour les témoignages, les médias et tout ça. Sincèrement, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est cette colère justement par rapport à cet homme que je découvre, mon père, qui ne m'a pas abandonné. On l'a forcé à m'abandonner. Et cette honte que j'ai eue de lui, cette haine que j'ai eue face à lui. Et donc, ça me permet maintenant de le dire publiquement, parce que là, c'était une honte pour moi. Parce que d'être enfant de la DAS, il faut le vivre, il faut le supporter. Quand vous arrivez dans le milieu professionnel, qu'on vous questionne, ah, t'as un petit accent, j'étais du Gers, ah, t'as un petit accent, et pourquoi ici, et pourquoi ça? Donc, il faut... moi, j'essaie toujours de me camoufler, je ne disais pas mon histoire, parce que j'avais honte, parce que c'était une pudeur aussi vis-à-vis de ma propre histoire, de ma propre fille aussi. Et ça, c'était ça le plus douloureux pour moi, de devoir me cacher. Et lorsque le masque est tombé, à une époque où j'ai pu dire à une collègue de travail, tu sais, moi, je suis une enfant de la DAS, et qu'elle m'a dit, mais tu n'as pas à avoir honte, Nelly. Et c'est là que le masque est tombé, le masque a craqué, et que j'étais un petit peu plus en paix avec moi-même, en fait.
D'accord.
Voilà.
Daisy, et toi, c'était quel moment? Est-ce que c'était le moment où tu as entendu dans les radios, les journaux, tu t'es dit là, bon, je ne vais pas laisser les autres parler à ma place, il faut que moi-même je parle de ce qui s'est passé?
Alors,
parce que,
oui. Je vous réponds. En fait, quand je suis partie à La Réunion, c'est pour. On avait une réunion avec la FED, Fédération des enfants déracinés des Drômes, hein, je dis. Et Valérie Anderson, qui à l'époque s'appelait comme ça, maintenant Marie-Germaine, elle m'a demandé, est-ce que tu veux témoigner? Est-ce que tu veux raconter son histoire? Parce que notre histoire, on l'a chacun, son histoire.
Tout à fait.
Et là, il y a une télévision qui s'est déplacée de Paris pour me filmer à La Réunion, pour que je raconte mon histoire et que j'ai récupéré mon dossier au département de La Réunion. Mon dossier perso, mon identité d'enfant, quoi. Et j'ai raconté mon histoire alors que je venais juste de lire tous les mensonges de l'État. les mensonges qui étaient dans mon dossier, la colère est montée et il fallait que je dise tout, tout ce qui s'est passé depuis le début. Depuis le début de la mort de mes parents, après tout ce qui s'est passé en pension et tout ce qui s'est passé en France. Toutes les maltraitances que j'ai dû subir. Il fallait que je le dise, il fallait que les gens soient au courant. Et j'ai même écrit à M. Macron pour lui dire, puisqu'on est des Français, mettez notre histoire dans les livres d'histoire pour les enfants, pour l'école.
Tout à fait, c'est important.
Parce qu'il faut qu'ils sachent, parce que dans le tiroir, c'est facile. L'État s'en sort à bon compte. Alors j'ai crié bien haut, bien fort ma colère, devant les télévisions, ensuite les journaux, les radios, tout ça. J'ai crié ma colère contre l'État. L'État français qui m'a fait souffrir et a fait souffrir mes sœurs aussi pour la même occasion.
Ouais, je pense en tout cas dans cette situation, merci à vous parce que comme je l'ai dit dans l'intro, c'est pas facile de témoigner de cela. Mais je pense que vous n'êtes pas seul, il y a peut-être des milliers d'autres enfants qui ont souffert aussi.
Oui.
Les souffrances ne sont pas pareilles, mais qui ont vécu presque les mêmes choses que vous. Et le fait d'en parler aujourd'hui, ça permet aussi d'ouvrir la voie pour ces gens-là.
Je suis d'accord. Et que les souffrances et les maltraitances sur les enfants cessent. On ne fait pas souffrir un enfant.
Non.
Il naît pour être heureux, un enfant. Pas pour souffrir, parce qu'un adulte, il aura déjà des soucis. Alors on ne fait pas souffrir un enfant.
Tout à fait. Si on ne peut pas lui donner de l'amour, on le laisse tranquille. Mais je pense que tous les enfants méritent l'amour.
L'amour, l'affection.
Mais c'est vrai que ça conditionne notre vie, hein. Ces mensonges, cet abandon. Quand vous grandissez, vous n'avez plus confiance en l'adulte. Et en tant que femme, moi, je parle de mon histoire à moi, mon père que je haïssais parce qu'il m'avait abandonné, que je croyais qu'il m'avait abandonné, la relation aux hommes par la suite. Il m'a abandonné. Pourquoi lui, il ne m'abandonnerait pas? C'est en grandissant avec tous ces questionnements-là, ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'au niveau de la confiance, d'accorder de la confiance à des adultes, ben, je peux vous garantir que ce n'est pas gagné d'avance pour nous. Je parle pour en général parce qu'il y a eu une méfiance et il y a eu tellement de mensonges que c'est insupportable de pouvoir... C'est compliqué pour moi, en tout cas, de faire confiance aux autres, même encore maintenant. Hein. Très, très compliqué. Donc, c'est vrai que je ne voulais pas trop témoigner dans les médias et tout ça, parce que j'avais un peu peur aussi qu'on retranscrive pas bien ou qu'on coupe à un moment donné ce que j'avais.
T'inquiète, ici vous êtes au bon endroit, rien ne sera censuré.
En tout cas, merci beaucoup. On fait confiance.
C'est important.
Oui.
C'est important, c'est l'histoire, c'est des choses qui sont passées, donc c'est important. Comme je l'ai dit, que la nouvelle génération aussi découvre cela, pour que la même chose ne se répète pas.
Voilà.
On ne sait jamais. Il se peut même qu'il y a des choses qui existent actuellement, qu'on nous sommes en train de parler de ça. Donc le fait d'en parler, je pense que ça peut freiner ces malfaiteurs. Moi, je les appelle comme ça.
Voilà.
Donc,
pourvu que ça marche, mon Dieu, ça marche.
Des malfaiteurs, c'est gentil. Moi, je dirais des brigands, des voyous.
Des bandits.
Hein? Donc,
des bandits.
Ouais, c'est dur d'encaisser.
Le plus grand malfaiteur est quand même l'État. Parce que si l'État réagissait un peu à tous ces maltraitances, quels que soient physiques, les coups moraux sur les enfants, parce qu'il n'y a pas que les coups physiques.
Tout à fait.
Hein? Il y a les humiliations et tout ça. Hein? Eh bien, si l'État intervenait à sa façon dans tout ce qu'ils peuvent faire contre ces maltraitances, il y aurait peut-être beaucoup moins. Si c'était puni, ces malfaiteurs, ces bandits, hein, s'ils étaient punis, peut-être qu'il y en aurait moins qui seraient peut-être freinés, ceux qui veulent continuer à faire du mal aux enfants. Ouais. Ça les freinerait un peu.
Il faut
que l'État réagisse.
Il faut que l'État réagisse parce que, quand même, c'est l'État qui est censé nous protéger.
Oui, c'est ça.
Donc, venant de l'État. Tout à fait, hein, ça nous fait perdre toute confiance à qui que
exactement.
Ce soit. Donc je pense que c'est très très bien d'en parler. En tout cas, Alter Ego, je vous remercie encore pour tout le travail que vous faites. Et parce que aussi une part, grâce à vous aussi, toutes ces personnes, tous ces gens qui témoignent, ils ont quand même cette confiance de dire qu'au moins il y a des gens qui m'écoutent. Tu vois, si c'est l'État qui ne vous écoute pas et qui vous ont fait du mal, donc tu te dis, je veux me tourner vers qui en fait? Parce que c'est l'État qui doit nous protéger. Donc Je pense que c'est un
tout à fait. Notre association, elle est faite pour ça aussi, c'est-à-dire montrer aux gens que des fois dans l'histoire, comme les tirailleurs sénégalais, comme tous les étrangers qui ont combattu à la Seconde Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale, qui sont retrouvés en Afrique par la suite et qui n'ont pas touché leur solde, etc. Nous, on est là aussi pour mettre le doigt sur ces choses de l'histoire dont on ne parle pas et qui permettent aussi de se dire, bah oui, 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 au fait, il y a beaucoup d'immigrés ici, mais vous savez, ils ont participé à la Révolution, ils ont participé à la guerre, ils ont donné de leur sang, ils ont combattu au front, etc. Donc nous, ça va de dans ce sens-là, quoi. Notre association, elle est faite pour ça, pour donner la parole aux gens qui souffrent ou qui veulent témoigner de quelque chose d'important. Et je crois que c'est important de connaître cette histoire. Et demain, peut-être, quand vous croiserez un réunionnais dans la rue ou vous croiserez quelqu'un d'autre, vous direz, ah, peut-être c'est aussi un enfant de la Creuse qui est là, parce que là, ils ont 69 ans, 60 ans, ils sont encore vivants, ils témoignent d'une chose horrible du passé. Et je crois que c'est à nous aussi de regarder l'autre avec bienveillance et l'autre qui est différent de nous, qui n'est pas nécessairement noir ou et qui peut juste être différent physiquement, qui peut être, pas les mêmes orientations sexuelles ou tout, que dire bon sang, c'est un être humain et on est tous dans les souffrances. Moi, je suis un enfant d'immigré, mes parents sont venus dans les années 60, ils ont subi aussi l'exil, ça a été dur tout ça, donc c'est important de connaître, de se dire ça. Et comment est-ce qu'on peut cohabiter ensemble, c'est
tout ça. Tout à fait, ça aide même ce vivre ensemble dont on parle tous les jours. Donc il faut que les gens ils sachent ce qui s'est passé pour non seulement ne pas répéter la même chose, mais de dire quand même ah ouais, même nous on a été bernés en fait.
Ben oui. Voilà.
C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. En tout cas, merci beaucoup. Là, on arrive à la fin de cette interview exceptionnelle, c'est comme ça que je l'appelle, parce
merci.
Que c'est
merci
rare.
Merci à vous.
Quand même.
Merci.
Donc merci pour toutes les vérités, les témoignages. En tout cas, continuez. On a besoin des gens comme ça pour que la vérité voit jour, quoi.
Voilà. Merci à vous. Merci.
J'espère
à vous aussi,
que l'État va reconnaître ses torts et qu'il va s'excuser. Quand même pour apaiser un petit peu les cœurs, même si ça ne peut pas changer le cours de l'histoire.
Non, c'est fait.
Il est écrit, mais on aimerait avoir un futur un petit peu plus apaisé, effectivement.
Et parce que quand le vase il est cassé, recollé, le moindre petit choc il se recasse, brise en mille morceaux, et ça, l'État nous a bien fragilisés.
Si vous voulez les écouter, ils sont vendredi à l'AMJC Voiron, je redis encore à 20h, il y a une séance de tout public, donc l'AMJC n'a qu'une seule à Voiron. Et nous, demain après-midi, on va être au lycée Louise Michel, et vendredi matin, on sera à Thomas Edison pour faire ce genre de témoignage devant des scolaires. Voilà. Et si vous voulez, il y a plein de choses qui sont sur Internet, il y a plein d'écrits autour de ces questions-là. Si vous voulez un peu plus approfondir là-dessus, il y a des vidéos, il y a plein de choses qui se font. Quoi. Il faut les soutenir, voilà.
Merci beaucoup.
Merci pour votre énergie, votre dynamisme. C'est vraiment très chaleureux à vous de nous accueillir avec autant de bienveillance et avec cette écoute qui vous est propre.
Merci beaucoup.
Merci de tout mon cœur, que les gens soient au courant de tout ce qui s'est passé.
Merci à vous.
Et soient plus vigilants pour l'avenir.
Tout à fait. Donc voilà les amis, vous qui nous écoutez depuis tout à l'heure, je ne sais pas, il se peut qu'il y en a un de nous qui vient d'arriver juste sur les ondes de News FM qui n'a pas pu écouter l'interview au complet en fait. Donc du coup, tout ça sera disponible également sur le site de la radio. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez le télécharger en podcast. Donc ça sera sur www.radio-newsfm.com. Voilà, du coup, on va rendre l'antenne plutôt. Toujours, on va rester dans notre émission le 16-19 avec Sana. C'était des témoignages des enfants transplantés de la Réunion qu'on appelle les enfants de la Creuse, accompagnés par l'association Alter Ego, représentée par Ali. À tout de suite.
Le 16-19 avec Sana sur News FM.